un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Ina Mihalash est née à Montréal en 1985 et arrive en France en 2004. Elle écrit, elle joue, elle crée et plus tard se définira comme poétubeuse, jeu de mots entre poète et youtubeuse. En 2011, elle s'invente un personnage qu'elle nomme Solange et poste des vidéos sur YouTube qui s'appellent « Solange te parle ». Elle y raconte, face caméra, ce qui lui passe par la tête, un peu comme chez un psy, et laisse se déployer des sujets intimes, personnels, tout en parlant beaucoup de la forte injonction qu'elle ressent à être, à devenir quelqu'un, à exister socialement. Avec son visage diaphane de femme-enfant, sans artifice, sans maquillage, sa voix de petite fille au débit lent et affecté, un peu ASMR, elle conquiert les abonnés et les followers à vitesse grand V. 62 000 sur Instagram, 420 000 abonnés sur YouTube. À Alice Babin, qui signe l'épisode du jour, elle confie qu'à mesure de son ascension, l'envie d'avoir encore plus d'audience, encore plus de succès, d'y aller toujours plus fort, ne la quitte pas. Jusqu'au jour où Solange et Ina se mélangent les pinceaux. Ina est prise à son propre piège, elle se sent perdue dans son double, elle craque en ligne, elle s'effondre, le personnage et la personne partent en vrille. Cette injonction, qui est son sujet, est devenue sa terreur. On la voit pleurer, un brin théâtral, mais sincèrement perdue dans sa crise d'égotrip existentielle. Est-elle Ina, Solange ou aucune des deux ? Qui suis-je ? Être ou ne pas être ? La question a de la bouteille, me direz-vous. Mais elle se prend vraiment la tête, Solange Ina, comme une ado au ralenti, et ses abonnés s'y retrouvent et sont émus comme Alice Babin. À la suite de quoi, elle lâche tout, déprime ferme et part en retraite silencieuse. Lorsqu'elle réapparaît, Solange a changé. Elle te parle toujours, mais elle ne veut plus la même chose. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Elle ne veut plus être célèbre, elle ne veut plus les plateaux, les tapis rouges, les followers. Elle veut être et non pas croître, progresser, ambitionner. Au fond, elle dit toujours la même chose, mais elle a d'autres objectifs et toujours autant de followers. Tout de suite, dans Les Pieds sur Terre, on parle de tout ça, gravir, monter, mais à quoi bon ? Deux histoires qui ressemblent à celles de Solange, des questionnements sociaux et existentiels. Qui suis-je et qu'est-ce que je veux vraiment ? Par Alice Babin.
Je m'appelle Juliette, j'ai 30 ans, je suis née à Paris et j'ai grandi à Paris. J'ai fait toute ma scolarité là-bas. J'ai fait 7 ans d'études, ce qu'on appelait à l'époque lettres et arts. Ça permettait d'avoir un petit pied dans l'histoire de l'art. Moi, j'avais des cours à côté de l'école de dessin, d'art plastique, parce que j'aimais beaucoup ça. Et je trouvais que les études de lettres et d'histoire de l'art, c'était quelque chose d'assez noble. C'était de belles études. Et du coup, j'ai voulu un petit peu persévérer là-dedans. Et j'ai fait une école de restauration de tableaux. Ensuite, je suis partie faire un master et à la fin, je suis repartie avec un diplôme pour travailler dans les musées, assister les conservateurs de musées, créer les expositions, les textes qui se rapportent aux expositions. Enfin voilà, tout le cheminement d'une exposition de A à Z dans les musées ou les institutions culturelles, tout était possible. Je faisais beaucoup de boulot d'étudiante pendant mes études. Tout ce qui est faire des extras dans un bar, être animatrice de colonies de vacances. À un moment, je faisais les vendanges. Une autre année, je faisais de l'intérim, donc hôtesse d'accueil dans des événements. Voilà. Tout ça, pour moi, c'était des petits boulots à côté de mes études. Pour moi, c'était pas des sous-métiers, mais aux yeux de la société, il y avait quand même un côté, voilà, animateur, c'est sympa, c'est les vacances. Alors ok, on travaille, mais le directeur, il vous blanchit, il vous loge, il vous nourrit. Il y a le côté, c'est le temps de l'été, quoi. Le sérieux, il reprenait à la rentrée. Et puis à la fin de mes études, j'ai arrêté de faire ça. Alors, c'était à Paris que j'ai accompli mon stage de fin d'études, qui a le plus de musées en France rassemblés au même endroit, qui avait le plus d'offres d'emploi. C'était aussi la ville où j'ai grandi, donc là où j'ai tous mes amis, ma famille. Donc c'était assez logique de postuler à des offres à Paris et de travailler dans des musées à Paris, qui sont en plus de très beaux musées, très réputés, avec des œuvres que j'aimais déjà en allant les visiter plus jeune. C'était assez challengeant de me dire que j'allais potentiellement travailler dans des musées où il y aurait des artistes que j'avais toujours admirés ou que j'avais étudié pendant mes études. Enfin voilà. Donc mon stage de fin d'études a débouché sur un CDD et après j'ai repris pendant un an dans un autre musée, pas très célèbre. C'était pas très bien payé, mais ça correspondait aux études que j'avais faites et ça c'était très important. Dans le milieu du travail où j'évoluais, c'était important le paraître, de devoir aller voir les gens, faire bonne figure, serrer des mains, savoir se présenter, se valoriser, c'est-à-dire avoir un discours un peu prédéfini qui nous décrit. Le but, c'était de séduire l'interlocuteur, donc forcément... Je repense à une anecdote, une fois je m'étais faite allumée et réprimandée par devant toute l'équipe par ma supérieure parce que lors d'un vernissage j'avais raconté sans savoir que c'était un projet secret, qu'il allait avoir tel ou tel projet dans le musée. Et en fait on détient pas les codes de la bombe nucléaire, on n'est pas médecin, on n'est pas urgentiste, enfin je m'étais faite mais lyncher publiquement à ce moment-là. Tout avait tendance à prendre des proportions. J'avais l'impression de faire semblant. En tout cas, d'essayer de renvoyer la meilleure image de moi-même, aussi bien physique que intellectuelle. Et à Paris, je trouve qu'il y a ce truc de carrière qui est très très présent. C'est valorisant de faire carrière. Souvent, les premières questions qui ressortent, c'est est-ce que tu comptes changer de poste, essayer d'aller un peu plus loin? Mais parce qu'à Paris, il n'y a que le travail finalement comme activité principale. Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un qui est venu à Paris dans le but de construire une vie de famille. Il y a le travail avant. C'est là que ça se passe. Et du coup, c'est vrai que dans la culture, on est vite rattrapé par tous les concours territoriaux pour les musées nationaux. Donc passer les concours pour avoir un meilleur poste. Et puis plus on est bien vu, plus on connaît le monde, plus on a le choix de trouver un poste qui nous plaira plus qu'un autre. Mais bon, au bout d'un moment, 7 ans d'études, c'est déjà beaucoup. Moi, j'avais envie de me lancer aussi dans le professionnel, de gagner de l'argent, de pouvoir partir de chez mes parents, avoir mon petit appart. Tout en faisant un métier qui correspondait aux études que j'avais faites. Mais tous les musées auxquels je postulais, il y avait toujours un meilleur profil. Déjà, à l'époque, je me disais, je vais arrêter de vouloir toujours travailler dans les plus beaux musées et je vais postuler à des musées moins célèbres. Et tant pis, je vais passer à des plus petits musées. Mais je le vivais un peu mal parce que je trouvais ça un peu vexant de dire « Ah, tant d'études pour finalement me retrouver dans un petit musée pas connu, où il n'y a pas beaucoup de public. » Et puis, dans ces moments-là, finalement, on a envie de se dire « Bon, bah, tant pis, je vais partir voir ailleurs, quoi. » Après, il y a eu le Covid, donc les musées ont fermé, dont ce petit musée. C'est là que j'ai envie de bouger, de voir autre chose. Donc, le Covid aidant, j'ai décidé de reprendre mon diplôme BAFA, animatrice, le temps d'en été. Le petit boulot mal aimé, en tout cas moins bien vu qu'un poste dans un musée. J'avais l'habitude déjà, quand je travaillais dans les colonies de vacances, pour choisir mes colonies de vacances, je prenais une carte de France et je pointais toutes les villes en bord de mer. Donc je suis redevenue animatrice dans un club de vacances tout l'été, donc pendant 2 mois et demi. Je me suis retrouvée à m'occuper d'ados, de pré-ados dans les Landes. C'est des métiers où on est très vite valorisé. C'est nous qui faisons vivre le club de vacances. C'est nous qui animons les soirées. Les gens sont en vacances, donc on leur vend du rêve, en fait. C'est quand même hyper gratifiant. Et puis, pendant 2 mois et demi, je suis logée dans l'endroit où je travaille. C'est là que je rencontre quelqu'un dont je tombe amoureuse. Ma vie, elle change. Et je décide m'installer dans les Landes, définitivement. Donc je dois changer mes plans, je dois réutiliser encore cette casquette d'animatrice. Alors, je commence par faire des extras de ménage dans les écoles primaires. Ensuite, j'ai travaillé dans des centres aérés. Je faisais du périscolaire aussi. Il y a eu une période où je faisais le bus scolaire le matin. C'est-à-dire que j'accueillais les enfants en gilet jaune dans le bus pour les amener à l'école. Et je faisais la cantine le midi. Ensuite, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, aidé les gouvernantes, les femmes de chambre. J'ai été serveuse aussi, plagiste. Et finalement, par la force des choses, je suis devenue saisonnière. C'est-à-dire que l'été, je travaille dans les Landes ou dans le Pays Basque. Et l'hiver, avec mon compagnon, on va dans les Alpes pour travailler dans le tourisme dans les Alpes. Depuis que je ne vis plus à Paris, j'ai perdu la notion d'ambition. C'est-à-dire que pour moi, le travail, c'est devenu quelque chose qui me permet de me nourrir. Parce que ce qui m'intéresse maintenant, c'est tous les moments hors du travail. Donc de pouvoir aller à la plage, me balader, de pouvoir, je sais pas, visiter une ville que je connais pas, dans une région que je connais pas encore par cœur. Mon ambition, c'est de vivre pleinement, de profiter de mon amoureux, de rencontrer des nouvelles personnes, d'aller à un cours de surf. Voilà, c'est d'avoir le temps de faire tout ça. Maintenant, je veux avoir le temps de faire des choses. Là, je viens de finir la saison d'été. J'étais dans un camping, j'étais réceptionniste. Beaucoup de temps libre à côté, pas beaucoup de pression de la part des employeurs, un bon rapport clientèle. Je suis très contente d'avoir fini, maintenant c'est les vacances. Ce que j'aime dans, là où j'habite, c'est aller regarder des couchers de soleil, profiter de l'océan, des pins dans les Landes, c'est ce que j'adore. J'aime essayer d'apprendre à surfer, vivre en plein air, pouvoir me balader, dessiner. J'adore ça, enfin vraiment, c'est ce qui me plaît le plus, en fait. Dans mon carnet de dessin, avant, c'était des dessins très centrés sur moi-même, ce qui se passait dans ma tête, mon mal-être. Et maintenant, c'est quand même plus coloré, plus centré sur ce qui m'entoure et ce que je vois au quotidien. Donc, c'est quand même un peu plus ouvert, plus joyeux.
Je m'appelle Amadi, j'ai 31 ans, je vis à Paris et j'ai grandi en région parisienne avec mon père, ma mère et ma grande sœur. Je viens d'un milieu plutôt modeste. Mon père est chauffeur de taxi et ma mère est femme de ménage. J'ai fait des études de droit, très encouragé évidemment par mes parents, surtout mon père qui voulait absolument que ses enfants soient avocats, soit médecins. Pour être avocat, j'ai suivi vraiment un parcours de droit classique à l'université. Sans véritable embûche, plutôt moyen, sans savoir véritablement dans quelle spécialité je voulais m'engager, les grandes discussions de tout le monde à partir de la deuxième ou troisième année, ceux qui voulaient faire du droit des affaires, droit pénal, droit fiscal, tout ce genre de choses. Moi, j'ai jamais vraiment su. Finalement, arrivé à la fin du master 1, je me suis dit que j'allais passer le barreau. Du coup, je fais une prépa l'été, 2 mois, enfermé dans un amphi où il fait très chaud. Et au final, je le rate très fort. J'ai eu l'occasion de commencer à travailler. Et du coup, je ne me suis pas présenté l'année suivante. Et j'ai commencé à travailler dans la banque et l'assurance. J'étais spécialisé en conformité, typiquement dans des établissements genre banque, assurance, s'assurer que, par exemple, les clients blanchissent pas de l'argent, donc c'est beaucoup de vérification. C'est un travail qui prend pas énormément de temps, donc c'est beaucoup de moments passés avec des collègues à machine à café, tout le monde qui répète à quel point ils s'ennuient, que c'est chiant à mourir. Et je faisais partie de ces gens-là. J'ai travaillé presque 2 ans et demi dedans. Et me vient à un moment donné cette idée de repasser le barreau. J'ai réussi à quitter mon ancien travail avec une rupture conventionnelle, ce qui m'avait permis d'ouvrir les droits au chômage. Donc j'ai pu préparer pendant presque 6 mois, seul, dans les meilleures conditions, un concours. Et ça a été un moment très fort et je me suis donné un challenge à moi-même. J'avais vraiment, pour la première fois, non seulement le temps, mais surtout l'envie de le réussir. Et ça a été un voyage vraiment extraordinaire. Je voyais très peu de gens, mais j'avais cette conviction que j'allais l'avoir et ça n'a pas manqué. Je l'ai même très bien réussi. Donc je l'ai eu, j'ai eu une joie terrible de me dire que j'allais être avocat. C'était peut-être un bonheur que j'avais peu, auquel j'avais peu goûté par le passé, quoi. J'ai intégré l'école d'avocat. 6 mois de cours, après j'ai fait 1 an de stage. Je passe de la banque, l'assurance, à des petits cabinets. On n'est que quelques personnes dans un appartement parisien. Là, je défendais 2 sortes de clients. Il y avait évidemment ce qui rapportait le plus. Hein, c'était donc défendre des entreprises ou des dirigeants d'entreprises pour des faits... par exemple de corruption, ça pouvait être aussi de fraude fiscale, détournement de fonds. Et je défendais aussi des hommes et des femmes aux histoires parfaitement communes, mais qui, à un moment donné dans leur vie, ont pu être soit les auteurs, soit les victimes d'infractions. Du vol à l'escroquerie jusqu'aux violences physiques, sexuelles et parfois la mort. Je me retrouve le nez dans des rapports d'autopsie, dans des reconstitutions de scènes, de crimes, mais aussi des affaires de grand banditisme, de corruption. J'avais pas d'ambition particulière dans ce métier d'avocat. J'avais pas le rêve de devenir le meilleur pénaliste de la capitale, mais j'aimais beaucoup ce que je faisais. Genre, se pencher sur un sujet, rechercher des faits, réfléchir à des argumentaires, construire quelque chose, s'investir dans un dossier, c'est ça qui me rendait heureux. Et tous les jours, notre travail apportait vraiment quelque chose dans la vie des gens. Et de manière assez unique comparée à avant. À la fin du dernier stage, c'était le moment pour moi de trouver une collaboration, de devenir avocat. Et pour devenir avocat, à ce moment-là, il fallait que je trouve un cabinet dans lequel travailler. Et au bout de 3-4 mois, je suis recruté. Et là vient le moment magique. On peut enfin prêter serment. Avoir accès à cette cérémonie au palais de justice sur l'île de la Cité où on est consacré comme avocat au cours d'une audience solennelle auquel la famille assiste. Mon père et ma mère sont venus et... Ça reste inoubliable. Pour moi, ça tourne au cauchemar très vite parce que tout ce que je fais est absolument remis en cause. Autant au début, le manque de confiance, je comprenais parce que j'étais un nouvel arrivant, je débutais en tant qu'avocat, mais au fur et à mesure que les mois avancent, ça devient de plus en plus dur, parce que c'est toujours moi qui pose problème, quoi que je fasse. Je me mange des remarques qui sont au début parfaitement dans le cadre du travail, et après ça tourne à des remarques très méprisantes. Genre, je pouvais passer un temps incalculable d'heures sur une tâche, sur un dossier, pour qu'au final on m'explique que ça servait strictement à rien ce que je viens de faire, et que ça avait jamais été demandé alors que c'était le cas. Alors, je me sens complètement humilié. Est-ce que c'était du harcèlement? Pour faire le juriste, j'irais pas jusqu'à juridiquement le caractériser. Mais oui, c'en était en réalité, enfin, je veux dire, c'était répété. C'est à chaque fois des remarques qui me faisaient beaucoup de mal. Je pense juste qu'en termes humains, ma personne ne convenait pas à la personne qui m'avait pourtant recruté. Comme une gangrène, j'arrêtais pas de penser qu'à ça. D'avoir cette anticipation de dire « Mon Dieu, j'ai fait quelque chose de mauvais. J'ai fait rater quelque chose. J'ai oublié quelque chose. » La moindre erreur, mais aussi minime qu'elle pouvait être, c'était de nature à me donner l'impression que le monde s'écroulait, quoi. C'était tellement rentré dans ma tête qu'à un moment donné, ça me pousse à l'erreur. En fait, ça me poussait à l'erreur constamment. Parce que j'avais peur de ce que je faisais, et du coup, j'arrivais à plus savoir rédiger même le moindre mail. Parce que même ça, ça convenait pas. Et c'était toujours en mode « Mais enfin, c'est ridicule, c'est pas comme ça qu'il faut écrire, c'est comme ça, c'est comme ça. » J'ai jamais su répondre. Et le fait d'avoir fermé ma gueule, c'est le truc qui m'a le plus blessé. Parce que je laissais faire. Je me laissais marcher dessus, mais de manière de plus en plus violente à chaque fois. Je craque, c'est juste avant les vacances d'été, je me dis que faut que j'arrête, et c'est comme ça que ma première et pour l'instant dernière collaboration en tant qu'avocat s'est terminée. J'ai le sentiment d'un faux départ et de pas avoir eu la chance que je méritais au regard de l'investissement que j'ai fourni pendant ce temps-là dans ce cabinet, pour ce cabinet. Quand je pars, je prends un peu de temps pour moi, je pars en vacances, et en revenant, je vais rechercher du boulot. J'envoie plus de 60 candidatures, et arrive ce moment où, en l'espace d'un mois, la moitié de ces candidatures, je reçois un mail de refus. Tous les cabinets que je cherchais dans ma spécialité, j'étais pas pris. Et là, ça commence à devenir assez compliqué pour moi, financièrement. Mais je suis beaucoup trop jeune pour m'installer, j'ai pas de clientèle. Et à un moment donné, vu que j'ai travaillé en entreprise avant, je trouve une offre pour rejoindre un cabinet de conseil. Je candidate, et là, en même pas 2 semaines et demie, 3 semaines, l'affaire est pliée, je suis recruté à des conditions beaucoup plus avantageuses qu'avant, un salaire 2 fois plus élevé que par rapport à ce que je touchais avant. J'ai dû prendre la décision d'accepter parce que j'étais dos au mur. On peut pas cumuler la fonction d'avocat avec la fonction de salarié dans une entreprise. Et donc en acceptant, je tire un trait, certes temporaire, mais en tout cas, je tire un trait sur ma profession d'avocat. Et après, je commence les formalités pour fermer ma petite entreprise. Donc je radie mon entreprise. Et voilà, un mois et demi après, toute l'aventure sur les 3-4 dernières années s'achève. Et j'ai commencé un métier de consultant. Voilà, ça a commencé de manière assez calme. C'est un milieu que je retrouve. C'est exactement la même ambiance, les mêmes personnes, voire les mêmes odeurs. que les entreprises que j'ai connues avant de m'engager dans cette folle histoire. Je dirais pas que je me fais chier parce que je commence. En revanche, la question c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire après ? De quoi l'avenir sera fait ? Il y a quelque chose qui me hante à la maison tous les jours. C'est cette robe d'avocat qui est chez moi, que j'ai dû finir par cacher derrière des sacs, des valises, en haut d'une étagère, et qui symbolise tout ce parcours, et en même temps, qui n'a servi strictement à rien. Là, c'est dur à dire, mais pendant tous ces mois de recherche, à la maison, où j'affrontais des refus quotidiennement, et bah, cette robe, elle était là, comme si elle me regardait. Et à chaque fois que je la voyais, ça me rendait triste et en colère.
C'était Gravir, Monter, mais à quoi bon ? Un reportage d'Alice Babin réalisé par Anne-Laure Chanel et mixé par Jean-Guilain Meige. Merci à Amadi, à Juliette, à la voiture d'Alain, me dit-on, ainsi qu'à Solange Ina. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Sandrine Chaperon, et notre stagiaire, c'est Hortense Martin. In my mind. Gonna make us fine.